Vous écoutez le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé par Rémi Fontaine, assisté de Florence, diffusé en direct sur Radio Courtoisie dimanche 19 mai 2019 de midi à 13h30 et réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Bienvenue au Libre Journal de Lumière de l'Espérance sur Radio Courtoisie. En ce dimanche 19 mai, nous avons une pensée spécialement pour Vincent Lambert, une nouvelle fois condamné à mort par euthanasie passive à partir de demain, dans la semaine qui vient. Nous en avions parlé lors d'une émission précédente avec son avocat Jérôme Triomphe et puis Serge Abad-Gallardo. Donc nous sommes assez sensibles à cette nouvelle mise à mort et nous pensons à sa maman qui a donné rendez-vous cet après-midi devant le CHU de Reims à 15h30 hein, pour demander sa grâce et nous sommes bien sûr en union de prière avec elle. Et nous allons parler aujourd'hui d'un autre sujet qui n'est du reste pas sans rapport avec le respect de la vie. Nous allons parler d'un livre, surtout, qui connaît un certain retentissement, notamment, je dirais, après l'incendie de Notre-Dame de Paris. Hein. Ce livre, c'est le livre de Yann Raison-Duclesiou, qui s'intitule « Une contre-révolution catholique aux origines de la manif pour tous ». Et parmi les phrases mises en exergue, il y en a une de Maurice Barrès, le livre a été écrit avant l'incendie, évidemment, de Notre-Dame de Paris, mais qui dit « Un peuple a dans l'âme un sanctuaire qu'il tend sans cesse à restaurer bon. ». Donc, c'était un peu prophétique, on peut dire. Donc, pour parler de ce sujet, la contre-révolution catholique, quelle contre-révolution catholique aujourd'hui, son auteur, bien sûr, ici présent dans le studio, Yann Raison-Duclesiou, qui est maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Bordeaux et chercheur au CNRS, au Centre Émile Durkheim. Et il a déjà publié « Qui sont les cathos aujourd'hui ? Sociologie d'un monde divisé ». C'était chez Desclée de Brouwer en 2014.
Bonjour Rémi Fontaine, merci de votre invitation.
Alors, pour parler également de ce sujet, Denis Sureau, bien connu des auditeurs de Radio Courtoisie, ancien patron d'émission, suppléant actuel, il est le directeur de Chrétien dans la Cité et aussi de Transmettre. Et aussi, il est l'auteur d'un livre pour une nouvelle théologie politique autour de Radicale Orthodoxie, édité en 2008 par Parole et Silence.
Bonsoir, chers auditeurs. Enfin, bonjour, chers auditeurs. Je vous dirai peut-être bonsoir ce soir parce que j'interviendrai à nouveau dans le cadre de la petite chronique que je tiens dans le journal de Thierry Delcourt. Mais voilà. Pour l'instant, c'est plutôt bonjour. Voilà.
Et troisième intervenant, Xavier Encar, qui est chargé de la formation au pèlerinage Notre-Dame de Chrétienté. C'est lui, notamment, qui, comme elle, est vidéo doctrinale très bien faite, très pédagogique, que vous avez peut-être eu l'occasion de voir, soit sur le site du pèlerinage, soit sur le Salon Belge.
Bonjour à tous.
Mais avant de parler de contre-révolution, de notre sujet, il faut justement évoquer le pèlerinage de chrétienté, dont le thème du reste n'est pas étranger à la contre-révolution, hein, c'est sur le Christ au roi. Hein.
Absolument, oui, oui, il s'agit d'une phrase extraite de Quas Primas, qui est une encyclique dédiée au Christ au roi, qui a été écrite par Pie XI en 1925. Le thème du pèlerinage, c'est la paix du Christ par le règne du Christ. Donc c'est complètement dans le sujet d'aujourd'hui.
Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai invité pour parler un peu du thème qui va suivre, qui est tout à fait en liaison avec l'histoire et la finalité du pèlerinage. Mais alors, évidemment, on a parlé de l'incendie de Notre-Dame de Paris et ça remet en cause quelques fondamentaux, je dirais, du pèlerinage. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Alors, on est toujours sous la protection de Notre-Dame, puisque l'association porte le nom de Notre-Dame de Chrétienté. Le fait nouveau cette année, comme tout le monde peut l'imaginer, c'est que le départ qui était prévu à Notre-Dame de Paris se fera depuis l'église Saint-Sulpice, donc pas très loin. Donc évidemment, ça génère un certain nombre d'aménagements dans l'organisation du pèlerinage. Mais comme d'habitude, c'est la 37e fois, 37e pèlerinage qui part de Paris. Et donc nous irons toujours à Notre-Dame de Chartres. Et nous prierons d'autant plus pour le relèvement de notre pays. Puisqu'évidemment, le thème et puis aussi les événements font qu'il est nécessaire de toujours prier pour que notre pays retrouve sa vocation de fille aînée de l'Église. Et donc on priera plus spécialement cette année sur des thèmes de doctrine sociale de l'Église.
Vous pouvez peut-être développer les trois thèmes, justement, des trois jours par rapport au thème central.
Alors les trois jours, en fait, la paix du Christ par le règne du Christ se décline au cours de trois thèmes. Le premier jour sur le respect de la dignité de la personne. On en a une excellente, malheureusement triste actualité. Avec la mise à mort de Vincent Lambert par l'arrêt de son hydratation et de son alimentation. Donc c'est le non-respect de la loi naturelle qui est un élément clé dont on parlera certainement au cours de l'émission. Donc le respect de la dignité de la personne. Le deuxième jour est consacré à la primauté du bien commun. Et là, on souhaiterait que nos gouvernants soient mieux inspirés sur le respect du bien commun, d'être au service du bien commun, c'est ce qui nous est demandé, pas servir son intérêt propre, mais d'être au service du bien commun, sur différents sujets, sur le bien, déjà qu'est-ce que le bien, et ensuite qu'est-ce que le bien commun, et puis ensuite, le troisième jour est dédié à la responsabilité. La responsabilité qui nous incombe en tant que catholique, puisque catholique veut dire universel, donc on est appelé à une mission universelle. La responsabilité justement d'avoir cette foi contagieuse et de faire connaître Jésus-Christ qui est la seule source du bonheur pour tous. Et si ça va de mal en pis, c'est aussi pour ça. Parce que beaucoup ont besoin de connaître Jésus-Christ qui permet justement de conduire au bonheur. L'autre point important aussi, c'est que chaque jour est sous le patronage d'un saint. Le premier jour, c'est sous la protection de Saint Jeanne Beretta Mola, qui s'était illustrée, qui était médecin elle-même, et qui a préféré laisser la vie à l'enfant qu'elle portait, au risque de perdre la vie elle-même. Le deuxième jour est consacré à bienheureux Frédéric Ozanam, qui est très connu par la fondation des conférences Saint-Vincent de Paul, mais aussi parce qu'il était engagé dans la doctrine sociale. Il n'hésitait pas à défendre justement les enseignements que de l'Église, qui est experte en humanité, pour reprendre une expression de Paul VI. Et puis, les troisièmes saints, si je puis dire, il s'agit des époux Martin. Les époux Martin sont connus parce que leurs enfants étaient toutes religieuses. Mais aussi, lui, Martin, était engagé dans la cité. Voilà le pourquoi de ce patronage.
Alors, pour les auditeurs qui veulent participer au pèlerinage, on peut rappeler les modalités pour s'inscrire. D'abord, on va donner l'adresse, bien sûr, le site, mais également les différents chapitres possibles.
Alors, en fait, le pèlerinage concerne vraiment tout le monde. Il est en croissance de 10% par an et il s'adresse vraiment à tout le monde. C'est-à-dire, d'abord aux marcheurs. Ces marcheurs peuvent s'inscrire dans différents chapitres. Si je commence par ordre chronologique, les enfants, il y a des chapitres enfants, et précisément il y en a 26 cette année, 26 chapitres enfants. Il y a aussi les adolescents de 13 à 16 ans qui peuvent s'inscrire aux pastoraux. Ensuite, on a les chapitres adultes, qui sont au nombre de 185 chapitres. Mais il y a aussi parmi ces adultes des chapitres étrangers, donc il faut savoir que aujourd'hui nous avons 10% de pèlerins qui viennent des différentes parties du monde, qui viennent des 5 continents, hein, en particulier les États-Unis, quand même deux chapitres importants. Et puis, il y a également des chapitres famille, où on peut pèleriner également avec ses enfants. Donc, pour s'inscrire, c'est extrêmement simple. Il suffit d'aller sur le site internet www.ndcommenotredame-chretienté-sans-accent.com. Et là, c'est extrêmement simple, il suffit de suivre la méthode proposée.
Et alors, pour l'arrivée à Chartres, quel sera le prêtre qui célébrera la messe? Comment ça se passe? Et on peut donner rendez-vous à ceux qui vont nous rejoindre le lundi, à quelle heure?
Alors la messe de Chartres, la messe de clôture de Chartres est à 15h30, donc dans la cathédrale de Chartres. Elle sera célébrée et prêchée cette année par Mgr André Léonard, qui est archevêque émérite de Malines-Bruxelles et ancien primat de Belgique. Il y a également Mgr Philippe Christori, qui est évêque de Chartres, qui sera également présent. Et puis, bien sûr, environ 300 prêtres ou 300 clercs qui seront présents comme chaque année.
Alors, il faut peut-être indiquer aux auditeurs qu'il y a un tarif préférentiel jusque...
Oui, alors, le tarif préférentiel, c'est important de le connaître. Dépêchez-vous de vous inscrire. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est extrêmement simple. Venez et voyez. Il se passe des choses extraordinaires sur les routes de Chartres. Chaque année, on a des conversions qui sont extraordinaires et c'est un excellent moyen pour se remettre en ordre de marche pour l'année suivante, pour recharger les batteries. Donc en fait, c'est vraiment un moment privilégié. Ensuite, il y a une originalité cette année, c'est que nous avons aussi, en plus de chapitres très spécifiques, comme le chapitre Saint-Gilles qui accueille des personnes avec un handicap, nous avons cette année aussi un chapitre qui est spécialisé sur l'évangélisation, qui porte le nom d'Emmaüs, et donc qui va avoir un peu des horaires aménagés, puisqu'il va suivre la colonne et il va renseigner en fait les personnes autour du pèlerinage.
Parfait, donc on encourage vivement nos auditeurs à participer, pour ceux qui le connaissent à y revenir, mais pour ceux qui ne le connaissent pas de venir et de voir justement. Et encore un mot.
Oui, en fait la date limite d'inscription du tarif préférentiel c'est le 20 mai, donc jusqu'à minuit. Donc là effectivement économiquement ça a du sens de s'inscrire avant le 20 mai. Venez et voyez, il se passe des choses merveilleuses sur cette route.
Alors, l'adresse ou le site du pèlerinage?
Alors, le site du pèlerinage, c'est www.nd-chretienté.com.
Et l'adresse?
L'adresse, c'est à Viroflay, c'est donc 191 avenue du Général Leclerc. Et vous pouvez, le mieux c'est de vous inscrire, mais vous pouvez aussi appeler à l'association à Viroflay.
Alors, on va poursuivre donc sur le fond du thème du pèlerinage, hein, la contre-révolution. Hein, la contre-révolution qui est un peu, je dirais, à la doctrine sociale de l'Église, ce que la philosophie chrétienne est à la théologie. Hein, et donc, avec en parlant un peu des thèmes abordés par le livre de Yann Raison du Clausiou. Je rappelle le titre de son livre, « Une contre-révolution catholique aux origines de la manif pour tous ». Alors, je pense qu'on peut commencer, parce que vous avez, vous travaillez le sujet depuis un certain temps, vous êtes l'auteur, on l'a dit, de ce livre « Qui sont les cathos d'aujourd'hui ?» et vous avez établi une typologie des catholiques aujourd'hui qui est reprise assez souvent. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler justement quel est un peu aujourd'hui le paysage politique des catholiques, enfin le paysage catholique plutôt de la France aujourd'hui?
Alors... Être catholique ou se dire catholique en France aujourd'hui, ça renvoie à des réalités extrêmement différentes. Et je crois que le premier moyen de saisir cette complexité, c'est tout d'abord quelques chiffres. Quelques chiffres, quelques proportions sur ce qu'on appelle, d'un point de vue statistique, la population française, c'est-à-dire ce sont les 18 ans et plus, hein, je le précise. Alors, sur cette population française, les 18 ans et plus... quelle est la proportion de baptisés, par exemple? Eh bien, on a une enquête de 2012 qui montrait qu'il y avait environ 70% de baptisés dans la population française. Donc c'est une enquête maintenant qui date un petit peu, donc on est en dessous de 70%. Mais c'est déjà un premier chiffre intéressant à noter, d'autant plus que c'est une moyenne. C'est une moyenne et bien sûr, le nombre, la proportion de baptisés selon la tranche d'âge que l'on étudie est tout à fait différente, puisque dans les tranches d'âge les plus âgées, on peut aller jusqu'à plus de 90% de baptisés. Et dans les tranches d'âge les plus jeunes, aujourd'hui, c'est de l'ordre de 20-25%. Alors ensuite, le chiffre suivant que je serais tenté de vous donner, c'est celui des catholiques déclarés. C'est-à-dire, lors des enquêtes d'opinion, quelle est la proportion de Français qui se disent catholiques quand on leur propose cette option. Eh bien, aujourd'hui... Enfin, en 2016, maintenant je vais vous donner des chiffres de l'enquête Bayard-Ipsos de 2016, il y a 53%, un peu plus de 53% de Français qui se déclarent catholiques quand on les interroge. Mais bien sûr, dans ces 53%, ça renvoie à des choses extrêmement différentes. C'est ce que l'on appellerait, je dirais, un catholicisme culturel, puisque parmi ces 53%, il y a un grand nombre de personnes qui ne croient pas en Dieu, mais qui se disent, qui se reconnaissent comme catholique, comme d'une culture catholique. Alors ensuite, si on prend des indicateurs de pratique, alors là, les chiffres chutent très vite. Si on prend la pratique saisonnière, c'est-à-dire les grandes fêtes saisonnières, tous les catholiques auront pu observer récemment, lors de la messe des Rameaux par exemple, que les nefs sont bien plus pleines que d'habitude, et lors de la messe des Rameaux, lors de la messe du 15 août, celle de la Toussaint ou de Noël, il y a en moyenne, je dis bien en moyenne, 11% de la population qui assiste à ces grandes fêtes. Ce qui signifie, alors encore une fois, c'est une moyenne, et il ne faut jamais oublier, comme les travaux du chanoine Boulard et de Gabriel Lebras l'ont montré, il y a une carte de la pratique religieuse en France. La France n'est pas uniformément ou n'a pas été uniformément christianisée. Hein. Cette carte, elle date du XVIIIe siècle. Il y a des régions que le chanoine Boulard appelait des régions de chrétienté, et puis il y a des terres de mission. Et ce n'est pas un phénomène récent. Alors bien sûr, les territoires, les régions où il y a le plus fort niveau de pratique, c'est le Grand Ouest, c'est le Nord, c'est l'Est, Alsace-Lorraine. Il y a ensuite, au sud de la Loire, il y a le sud du Massif central, il y a une partie de la Savoie et des Alpes de Haute-Provence, et puis il y a le Pays Basque. Donc ça, ce sont des régions dans lesquelles, en pratique saisonnière, on peut parfois aller jusqu'à 20% de pratique saisonnière. Et donc, cela veut dire que dans les autres régions de France, eh bien, on est en deçà de ce chiffre-là. Et puis, il y a ensuite des pratiques plus régulières de la messe. Alors, si on prend la pratique mensuelle, on est à environ 2,5% à peu près. Et puis la pratique hebdomadaire, cette enquête donc Bayard-Ipsos de juin 2016 montre qu'elle est à 1,8%. 1,8% de pratique hebdomadaire. Hein, donc c'est pour ça que les chiffres que je peux vous donner peuvent vous surprendre, parce que très souvent, quand on donne le chiffre des catholiques pratiquants, on donne un chiffre qui est autour de 5%. Mais c'est parce que la plupart des instituts de sondage ont fait évoluer la définition du catholique pratiquant, ce qui permet de vendre des sondages à prix coûtant, puisque quand on veut travailler sur un groupe plus petit, bien sûr, ça coûte plus cher, parce qu'il faut pouvoir le cibler. Donc, la pratique mensuelle et hebdomadaire comprise, on est autour de 4,5%.
Alors à ce sujet, Denis Sauve voudrait ajouter
chose. C'est juste un petit complément d'information. Le diocèse de Strasbourg a effectué au mois de mars un comptage des fidèles lors de deux messes. Et on arrive au chiffre de 3% par rapport à la population totale d'Alsace, quoi. Bon.
Voilà. Et c'est une région historique
ça, c'est un comptage,
qui a été qualifiée de région de chrétienté par Chanoine Boulard.
Voilà. Alors, sur ces messalisants, comme on dit maintenant, alors donc avec une définition tout à fait étonnante, hein, mais vous classez différentes types, différentes catégories de catholiques.
Oui, alors ensuite, ça c'est l'enquête de 2014 qui est publiée dans Qui sont les cathos. Disons que moi ce qui m'a intéressé, c'est de contribuer à faire sortir le catholicisme d'une certaine ignorance ou de descriptions qui, à force d'être globalisantes, sont écrasantes de la complexité interne du catholicisme. Parce que là, effectivement, je vous ai donné des indicateurs ou d'opinion ou de pratique, mais une fois qu'on connaît le chiffre, par exemple, des catholiques pratiquants, ça ne dit pas forcément grand-chose des sensibilités. Parce que, vous savez, très souvent, c'est le cas lorsqu'il y a des analyses électorales, on oppose les catholiques pratiquants et les non-pratiquants. Et effectivement, ils ont des attitudes électorales tendanciellement différentes. Mais on sait bien, quand on connaît l'univers catholique, qu'au sein même des pratiquants, il y a bien des chapelles différentes. Et ce qui m'a intéressé, c'est de décrire ces univers de sensibilité dans leur variété, parce qu'il y a un déficit de catégories pour décrire cette complexité interne. Vous savez, très souvent, y compris les catholiques, utilisent des catégories binaires pour décrire leur propre univers.
C'est progressiste.
Voilà, progressiste contre tradit, catho de gauche contre catho de droite, mais tout ça écrase, je dirais, toute la complexité. Alors, moi, j'avais proposé d'apporter un peu plus de complexité dans Qui sont les cathos. L'ouvrage s'ouvre par 12 portraits de catholiques engagés, qui permettent de 12 portraits de catholiques engagés avec des tas d'interprétations différentes de ce qui est en crise ou non dans l'Église aujourd'hui. Voilà, tout ça pour faire un peu foisonner le sujet. Mais ensuite, je ne vais pas vous présenter ces 12 portraits, parce que sinon l'émission n'y suffirait pas et je pense que les auditeurs seraient un peu lassés. J'ai montré qu'on peut regrouper en 4 grandes catégories cette complexité. 4 grandes catégories. Il y a ceux que j'appelle tout d'abord les catholiques conciliaires. Alors, attention, si je les appelle catholiques conciliaires, ce n'est pas parce que ce seraient les seuls à respecter le Concile Vatican II, pas du tout, mais c'est parce que c'est je dirais, le qualificatif le plus proche de la manière dont ces catholiques se définissent. Hein, lors des entretiens, il est tout à fait caractéristique qu'au bout d'un moment, ils vont dire « Ah mais oui, mais le Concile, pour nous, ça compte parce qu'ils l'ont vécu dans leur jeunesse comme un moment très fort de réarticulation entre l'Église et le monde. » Et c'est une expérience, je dirais, qui est fondatrice ou qui a compté dans leur socialisation religieuse. Alors ces conciliaires, puisque le Concile est une expérience de jeunesse, je dirais, ça renvoie à un groupe plutôt âgé et qui est assez majoritaire, parce que vous n'oubliez jamais que la pyramide des âges du catholicisme est inversée, hein, donc les personnes les plus âgées dominent statistiquement le groupe, et les conciliaires y sont très représentés. Chez eux, on a une certaine figure de Jésus, tendanciellement, hein, une certaine figure de Jésus. Jésus, c'est celui qui inclut l'exclu, hein, c'est celui qui transgresse les normes sociales de la société judéenne de son époque afin de manifester la miséricorde de Dieu, c'est le pardon de la femme adultère, etc. Et donc, pour eux, être fidèle, c'est, je dirais, perpétuer cette geste d'inclusion de l'exclu. Il y a ensuite un second groupe. Alors, ces catholiques conciliaires sont très représentés parmi les pratiquants dans les paroisses territoriales. Ils sont également extrêmement investis dans les structures diocésaines, très souvent. Il y a ensuite un second groupe, le groupe des catholiques observants. Alors, ces catholiques observants, là encore, j'utilise un qualificatif qui me semble assez proche de la manière dont ils s'autodéfinissent. Hein. À chaque fois, j'essaye d'utiliser des termes non péjoratifs et qui correspond à la manière dont ils se pensent. Ces catholiques observants mettent au cœur de leur manière d'être catholique la fidélité à un certain nombre de règles qui leur semblent essentielles pour vivre en catholique. Alors chez eux, on a tendanciellement une autre figure de Jésus qui est mise en avant. Ils vont insister sur la dimension du salut. Jésus est mort sur la croix et il est ressuscité, bien sûr, mais pour offrir un salut à l'humanité, ouvrir une voie qui lui permet de traverser la mort. Et par conséquent, être catholique, c'est avant tout chercher à être digne de ce salut, se préparer à le mériter. Et ce mérite s'acquiert par une par une conformation, il y a une insistance dans ce catholicisme sur l'attention à la fidélité à la pratique dominicale. Il y a aussi une très forte attention à un certain nombre de pratiques ascétiques, de prières ou de marches pèlerines, qui reposent, je dirais, la plupart du temps sur une même conception du monde, une certaine défiance. L'accès à Dieu nécessite une mise à distance du monde.
Voilà. J'ajouterais que sur le plan temporel, ces catholiques observants se réfèrent beaucoup à la loi naturelle.
Alors, se réfèrent à la loi naturelle, mais peut-être qu'on reviendra après dans l'émission un peu sur l'histoire de ce groupe.
Denis Soro.
Non, juste une petite question à Yann Raison du Clusio. Est-ce que ce groupe des observants était celui qui était désigné comme catholique intransigeant par la sociologie française, notamment...
Ça se recoupe en partie, mais si je n'ai pas repris ce terme d'intransigeantisme, puisqu'effectivement, il y avait auparavant... je ne suis pas le premier à avoir fait des typologies du catholicisme, Émile Poula y a travaillé, Jean-Marie Donnet-Gagny également, Philippe Portier, mais l'opposition entre... libéralisme et intransigeantisme étaient construits sur, en gros, la contestation des valeurs issues de la Révolution française. Or, intellectuellement, on peut tout à fait justifier cette typologie, mais moi, je dirais que dans mon travail de conceptualisation du catholicisme, je commence par partir d'un travail d'enquête empirique. Or, aujourd'hui, je ne retrouve pas dans les entretiens d'abord la contestation des valeurs de la Révolution française. Je dirais que le catholicisme global, enfin, il est de son époque, et je trouvais que ce terme d'intransigeant était devenu trop connoté. Enfin, finalement, il devenait trop lourd, et qu'il était intéressant d'en retrouver un nouveau qui n'avait pas, je dirais, le même passif de conflit théorique, même s'il a eu son intérêt. Hein. Donc oui, en partie, ça recoupe ce qu'a pu être le catholicisme intransigeant, mais même chez les jeunes générations des observants, le combat n'est plus ni la contestation du Concile, pour ceux qui pourraient le contester, ni la Révolution française. Les choses se sont déplacées, et pour moi, c'était important d'utiliser des mots nouveaux pour attirer l'attention, non pas sur forcément la longue durée de certains groupes catholiques, hein, sans la nier, bien sûr, mais pour attirer l'attention sur ce qui se joue de neuf.
D'ailleurs, dans ces observants, vous regroupez plusieurs catégories.
Mais bien sûr.
Comme les charismatiques, les tradis.
Alors, vous n'imaginez bien sûr pas que je prétende résumer la complexité du catholicisme avec quatre types. Mais pour penser le réel, il faut toujours des catégories synthétiques. Je dirais comme outil de travail. Mais ensuite, bien sûr, c'est un univers très complexe. Alors, bon, si vous voulez, je vois bien qu'il y a une attente particulière sur ces catholiques observants, donc je vais un peu plus rentrer dans les détails. Je dirais tout d'abord que sociologiquement, ils ont ce que j'appelle, entre guillemets, leurs quatre quartiers de noblesse de bons catholiques, parce que, quand même, ils s'estiment être la norme de ce que devraient être tous les catholiques. Enfin, ça, je dirais que globalement, c'est un peu une passion catholique que tous les catholiques, quelle que soit leur sensibilité, se pensent comme étant au centre et étant, bien sûr, les modèles de ce que tous les autres catholiques devraient être. La culture du pluralisme au sein du catholicisme n'est pas encore, me semble-t-il, tout à fait admise. Mais j'en reviens donc à ces quatre quartiers de noblesse. La plupart viennent de familles où la foi d'une manière intensive et extensive. Intensive parce que la foi a une vraie place dans l'ordinaire des familles, que ce soit par le bénédicité ou par une prière familiale. Et extensive parce que ces familles se regroupent entre elles. C'est un milieu de familles, un milieu de familles qui se reconnaissent par l'importance qu'elles accordent à la foi dans l'éducation des enfants. Ça, c'est le premier critère. Le second, c'est que les jeunes, la plupart du temps, passent par des établissements catholiques, sous contrat et maintenant, de manière tendancielle, assez souvent hors contrat. Troisième critère, le scoutisme a une très grande importance dans la socialisation des jeunes et les mouvements scouts qui ont été dissidents ou contestataires, on va dire, des guides et scouts de France après leur réforme des années 60. Donc c'est plutôt les guides et scouts unitaires de France ou les guides et scouts d'Europe pour les principaux mouvements. Et puis le quatrième critère, c'est que ces jeunes sont souvent mis au contact, où ces catholiques recherchent très souvent le contact du clergé des communautés nouvelles. Et alors attention, quand je parle des communautés nouvelles, ce sont les communautés qui se construisent à partir des années 70, et j'inclus là-dedans aussi bien les mouvements traditionnalistes, hein, dont la plupart se créent dans les années 70-80, les mouvements charismatiques et les mouvements néoclassiques. Les mouvements néoclassiques qui se situent, je dirais, dans un entre-deux, comme les Frères de Saint-Jean ou la communauté Saint-Martin. Et donc, ils vont rechercher de manière privilégiée ces différents, ce clergé, parce que c'est aussi un jeune clergé. Et donc, il y a une circulation, je dirais, qui est créée par ce catholicisme observant, entre ces différents univers. Ensuite, ces catholiques observants, je dirais qu'ils se pensent, on reviendra peut-être plus tard sur leur histoire et sur leur genèse, mais ils se pensent comme un groupe investi d'une mission. D'une mission qui a deux horizons. Un horizon interne à l'Église, il faut restaurer la pleine catholicité de l'Église. Parce qu'ils ont l'impression que finalement, depuis les années 60-70, eh bien, il y aurait un certain attiédissement des évêques et du clergé séculier. Attiédissement qu'ils mesurent tout particulièrement sur la défense de la vie, hein, qui est pour eux, je dirais, un peu un élément très important dans leur combat, et qui est du coup la défense de la vie, c'est aussi, je dirais, un peu un élément de test. C'est par rapport à l'engagement dans ce combat qu'ils jugent tendanciellement de la catholicité, de la pleine orthodoxie des catholiques, que ce soit ou des prêtres ou des évêques. Donc, premier combat, restaurer la pleine catholicité de l'Église, et puis le second horizon de leur combat est plus politique, plus national, c'est restaurer l'authentique identité de la France. Et ces deux combats sont liés, parce que pour eux, si la France perd son identité, c'est parce que les Français perdent la foi. Et s'ils perdent la foi, c'est parce que l'Église aurait quelque peu un peu trahi sa mission de transmission dans les années 70. Donc, restaurer l'Église pour restaurer la France, ce sont un peu les deux horizons de ces catholiques-là. Mais je vais peut-être, il faudrait pas oublier oui, les deux autres. Les deux autres. Oui, parce que là, vous me tirez.
On va revenir aux observants.
On va y revenir, mais vous me tirez. Il faut quand même finir le tour d'horizon. Vous voyez, même s'il est synthétique.
On va peut-être s'identifier là, et puis on reprend le développement.
Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Lumière de l'Espérance, animé aujourd'hui par Rémy Fontaine, qui reçoit Yann Raison du Clusiot, auteur de « Une contre-révolution catholique », Denis Sureau, directeur de Chrétienté dans la Cité, et Xavier Encart, responsable de Notre-Dame de Chrétienté. Le thème de l'émission aujourd'hui est « Quelle contre-révolution catholique aujourd'hui ?»
Alors, simplement une intervention qui rejoint ce que vous venez de dire. Pourquoi toute la chrétienté, les évêques, les prêtres n'ont-ils rien fait pour éviter la mort de Vincent Lambert? Alors, les évêques ont quand même réagi, etc. Mais enfin, ça rejoint effectivement, les observants trouvent effectivement qu'il y a une
essence. Oui, ils sont souvent assez contestataires des autorités, je dirais, enfin, de l'ordinaire et puis des évêques ou du clergé séculier. Et ils se sont construits plutôt en s'appuyant directement sur le pape, hein, surtout après l'élection de Jean-Paul II. Et puis je dirais qu'ils ont reçu le pape Benoît XVI comme vraiment le pape qu'ils attendaient. Et voilà, donc un catholicisme des catholiques qui se pensent comme la norme de ce que devraient être tous les catholiques parce qu'ils s'appuient de manière privilégiée sur le pape pour contester éventuellement le...
Oui, et le magistère. Donc.
Voilà, bien sûr, et le magistère. Et le magistère.
Donc alors, on a vu les conciliaires, les observants.
Alors, il y a ensuite les catholiques, bon, que j'appelle les inspirés, mais enfin, ce sont les catholiques charismatiques. Alors, chez eux, on trouve tendanciellement une autre figure de Jésus, hein, puisque j'ai fait la présentation de mes groupes par ces figures de Jésus, bien sûr, qui ne s'opposent pas. Tout ça, ce sont des tendances. Quand on présente une typologie, je le précise, on surimpose un peu on surjoue un peu l'opposition entre les groupes. Chez les catholiques charismatiques, en tout cas dans les entretiens, ce qui revient tout de suite, c'est que Jésus est une personne qu'ils ont rencontrée. Et très souvent, ces catholiques se présentent comme des convertis ou des reconvertis, non pas parce qu'ils n'étaient pas catholiques, très souvent ils étaient catholiques et même pratiquants, mais un jour, ils ont une expérience spirituelle qu'ils interprètent comme comme un moment de conversion, une rencontre avec Jésus, hein, pour reprendre leur terme. à partir de laquelle ils estiment que leur vie de foi antérieure était superficielle. Ils décident de se réengager et d'essayer d'intégrer toujours plus toute leur vie à cette relation personnelle vécue directement avec Jésus. Ce sont des catholiques qui se regroupent surtout sur des communautés électives de personnes qui partagent leur profil de conversion et de reconversion. Mais encore, c'est un univers assez complexe. Et puis le dernier groupe, c'est le groupe des catholiques émancipés, des catholiques, alors là, pas du tout pratiquants, qui ont une certaine défiance à l'égard, je dirais même, de la pratique de la messe, qu'ils jugent comme une forme obsolète et même hypocrite de la pratique de la foi. Chez eux, on trouve une autre figure de Jésus. Jésus, c'est le libérateur, c'est celui qui vient rendre à tous les hommes, à tous les hommes opprimés, leur pleine dignité, qui vient les libérer. Et par conséquent, vivre sa foi, c'est perpétuer cet engagement de libération de Jésus, c'est s'engager contre toutes les injustices qui font perdre à certains hommes leur dignité. Alors ces catholiques-là, on les trouve plutôt dans les mouvements d'action catholique, on les trouve dans les aumôneries du public, dans les... ou tendanciellement chez les guides des scouts de France. Mais tendanciellement, ça n'est pas parce que je cite là une organisation que tous les catholiques qui seraient fait partie de cet univers de sensibilité.
Et je dirais que c'est quand même plutôt les chrétiens de gauche en général.
Oui, alors c'est ce qu'on appelait historiquement les catholiques de gauche, mais ce qui est intéressant, c'est quand on fait des enquêtes, c'est qu'on voit bien que ces clivages politiques ne correspondent pas tout à fait à ces clivages religieux et qu'il y a des catholiques de droite et de gauche dans tous les groupes, y compris parmi les catholiques observants.
Denis Sereau.
Oui, juste une petite remarque là-dessus, c'est qu'effectivement la notion de chrétien de gauche a énormément évolué. Et si vous regardez un journal comme La Vie et les analyses de Jean-Pierre Denis, qui aurait pu... il y a quelques années, vraiment paraître comme une figure de grand journaliste de gauche. Et quand, en fait, il est souvent sur des positions qui le rapprochent beaucoup plus des positions des observants que de celui de ses prédécesseurs, des directeurs de la publication des années 70, qui étaient souvent en rupture avec l'institution ecclésiale.
Oui, donc, tout à fait.
Il y a vraiment...
je dirais, sur vos quatre catégories, les trois premières, surtout, il y a beaucoup d'intersections possibles.
Mais bien sûr qu'il y a des intersections.
Par exemple, la rencontre, d'ailleurs, c'est une affirmation de Benoît XVI. Hein. C'est la foi, ça commence par la rencontre avec Jésus. Donc, Benoît XVI, qui est aussi le pape, à la suite de Jean-Paul II, défenseur de la loi naturelle, contre la culture de mort, etc. Donc, il y a beaucoup de conjonctions possibles, en fait. Oui, Xavier Nkar.
Je peux illustrer ça au pèlerinage de Chartres de Notre-Dame de Chrétienté. Nous avons 30% de personnes qui ne connaissent pas la messe traditionnelle, qui est une caractéristique de notre pèlerinage qui est dédié à la messe traditionnelle. Donc on voit beaucoup de personnes qui viennent de différents mouvements qui ne sont pas forcément les cathos tels que décrits précédemment.
Alors oui. Après cette...
Sachant que la moyenne d'âge de ce pèlerinage est de 22 ans. Donc c'est un signe de vitalité. Ce n'est pas des nostalgiques de l'ancien rite des années 60 comme certains ont voulu les qualifier. Aujourd'hui c'est vraiment la vitalité, des graines de cathos militants.
Denis Sereau.
Oui, pour aller dans le même sens, certains ont inventé le concept de tradismatique, parce qu'effectivement, notamment chez les jeunes, vous pouvez avoir des jeunes qui font le pèlerinage de chrétienté et qui vont aller aux sessions de parelmonial, ou qui vont assister à la messe traditionnelle en latin, etc., et qui habituellement vont à des séances de louanges, de prières dans leur paroisse territoriale. Il y a effectivement des clivages qui se brouillent, quoi.
Alors justement, ça va nous permettre d'aborder la seconde partie, après la sociologie, la typologie des catholiques aujourd'hui en France. C'est l'objet du reste de votre enquête, de votre dernier livre. C'est le renversement qu'a opéré notamment la Manif pour tous, peut-être un peu avant, a été un révélateur. Et là, votre enquête porte justement plus particulièrement sur les observants. Alors vous allez nous expliquer pourquoi, et en répondant à cette question, quel renversement, qu'est-ce qui est apparu avec ce phénomène de la Manif pour tous, puisque c'est effectivement le sous-titre de votre livre, hein, une contre-révolution catholique aux origines de la Manif pour tous.
Oui, alors je dirais que ce livre Je l'ai écrit parce que je n'étais pas satisfait des interprétations dominantes de la Manif pour tous, et il m'a semblé qu'il fallait, parce que ces interprétations ont fait de la Manif pour tous la manifestation d'un réveil du militantisme catholique. Donc, je dirais, voilà, la Manif pour tous a été vraiment présentée comme un tournant. Alors, je ne dis pas qu'elle n'est pas un tournant, mais moi, ce qui m'a intéressé travaillant sur l'histoire contemporaine du catholicisme, c'est de montrer que ça ne naît pas de nulle part et que la Manif pour tous, finalement, n'est que la partie émergente d'une dynamique beaucoup plus profonde, beaucoup plus large, beaucoup plus large. Et donc, j'ai voulu écrire une histoire des dynamiques internes au catholicisme depuis un peu plus de 30 ans, pour comprendre ce qui était en train de se passer aujourd'hui. Parce que on est quand même en train de, aujourd'hui, de vivre quelque chose d'assez paradoxal. Parce que, bon, je vous ai déjà cité des chiffres, je ne voudrais pas accabler vos auditeurs de chiffres, afin de ne pas troubler leur repas et leur digestion, mais bon, quand même, le catholicisme, statistiquement, s'effondre en France. C'est-à-dire, dans n'importe quelle entreprise où il y a des tendances comme ça, on se dit, on est proche de la faillite. Et toutes les courbes continuent de décliner de toutes les formes de pratiques.
D'ailleurs, parenthèse, c'est aussi l'objet de l'étude d'un de vos confrères, Guillaume Cuchet, hein, « Comment notre monde a cessé d'être chrétien ».
Oui, tout à fait. Tout à fait, oui, c'est un ouvrage très remarquable qui s'intéresse aux causes de cet effondrement. Donc, bon, les chiffres sont à la baisse. Et, en même temps, le catholicisme est revenu au centre du jeu politique. Quand même, j'en donne trois exemples. Durant le quinquennat de François Hollande, la Manif pour tous a été un mouvement social important et qui a structuré l'opposition de droite à François Hollande. Et c'est un mouvement social, par ailleurs, qui, dans l'histoire de la Ve République, et plus encore dans l'histoire des droites, est important. C'est-à-dire, c'est une mobilisation d'ampleur. Donc c'est là quand même quelque chose d'intéressant. On a ensuite, lors des primaires de la droite et du centre de novembre 2016, il y a eu toute une focalisation autour de la candidature de François Fillon, mais surtout autour du parti Sens Commun qui a été, je dirais, interprété ou présenté comme la cause de ce succès. Bon, tout ça est beaucoup plus complexe, hein. Mais c'est intéressant, hein, de voir que pour la première fois, il y avait un candidat aussi qui parlait de son catholicisme, même si, voilà, on peut bien sûr se demander ce qu'il y a derrière. Mais quand même, historiquement, ça n'est pas rien, parce que ce sont là des choses intéressantes à penser et à réfléchir. Et puis, nous sommes dans l'actualité immédiate. Il est quand même assez intéressant de voir qu'au sein des Républicains, Laurent Wauquiez est allé chercher François-Xavier Bellamy, quelqu'un, je dirais, qui a émergé au moment de la Manif pour tous, pour diriger la liste de son parti aux élections européennes, pour une élection qui est très importante pour ce parti, parce que je dirais que la reconstruction et la relégitimation de son parti, qui a été très lourdement impacté par l'échec de François Fillon à la présidentielle, donc en dépend. Et donc c'est quand même intéressant. Et puis, dans un dernier exemple, l'omniprésence du recours aux racines chrétiennes dans le discours politique. C'est quand même intéressant de voir que on a un déclin statistique et qu'en même temps, le catholicisme revient sous des formes différentes et qu'il faut examiner de quoi il s'agit. Attention, je ne vous dis pas que c'est un retour de l'Église, mais revient au centre du jeu politique. Et donc j'ai voulu essayer de comprendre ce qui s'était passé, et à cette fin, donc, j'ai écrit cette histoire de 30 ans qui me fait explorer, je dirais, non pas les seules racines de la Manif pour tous, mais globalement toutes les recompositions militantes au sein du catholicisme français.
Il y a eu aussi l'élément nouveau avec l'incendie de Notre-Dame, parce que ceux même qui étaient les plus réticents aux racines chrétiennes de la France ont été obligés de la mettre un peu en veilleuse, d'une certaine manière, parce qu'il y a eu une espèce de consensus, en l'occurrence, face à cet événement un peu emblématique.
Oui, tout à fait. Mais je pense quand même qu'il y a beaucoup d'ambiguïté dans ce qui a été pleuré avec l'incendie de Notre-Dame.
D'instrumentalisation, même avec Notre-Dame. Hein,
parce que parfois, c'est plus Walt Disney qui était la cause, je dirais, de ce saisissement que l'histoire ou la fonction religieuse de Notre-Dame. Mais effectivement, c'est un exemple intéressant parce que Alors, si on, le catholicisme en tant que ressource de construction de soi, bon, il est en voie de marginalisation dans la société française. Mais en tant que registre de construction du collectif, en tant que registre de partage d'une émotion nationale, eh bien, le catholicisme reste légitime. On l'a vu autour de Notre-Dame. Vous savez que pour beaucoup de non-catholiques, quand même, d'avoir un président qui se dit « reconstruire Notre-Dame, c'est notre destin », c'est quand même très surprenant. Mais bon, c'est très lié à ce que j'appelle la catholaïcité à la française. Il ne faut pas oublier que les cathédrales sont la propriété de l'État. Et on a retrouvé quelque chose d'assez paradoxal qui avait déjà eu lieu lors des obsèques de Johnny Hallyday, dont le point culminant a été une messe, sans que ça scandalise. Et donc, vous voyez, c'est curieux à quel point, de manière individuelle, le catholicisme décline, mais en tant que ressource pour exprimer une émotion, pour partager une émotion, et pas seulement collective, mais qui a une dimension nationale, eh bien, la messe reste une forme légitime. Oui, il y a des tas de choses très surprenantes à observer.
Et ça fait partie aussi de ce catholicisme culturel dont vous parliez tout à l'heure, qui n'est pas forcément le catholicisme des catholiques observants.
Non, bien sûr, bien sûr. Là, on est dans toute autre chose. Oui, on est dans toute autre chose. Mais pour moi, s'il y a eu un certain succès du catholicisme, de ce militantisme observant, parce que voilà, il faut en venir à la thèse du livre, c'est que les recompositions actuelles dans l'Église, elles ne sont pas liées à tous les univers catholiques. Ces recompositions, elles sont liées au dynamisme propre du catholicisme observant dans ses différentes familles, hein, que ce soit du côté charismatique, du côté traditionnaliste ou du côté néoclassique, hein, puisque c'est de là aujourd'hui que provient l'évocation religieuse résiduelle. Donc il y a un dynamisme militant, mais ce dynamisme militant, il a eu aussi, donc il a des causes internes qui sont liées à l'histoire de ce catholicisme, mais il bénéficie aussi d'opportunités parce que je crois qu'on est dans un moment très particulier qui favorise, je dirais, qui favorise un regain d'intérêt pour le catholicisme. Alors pourquoi est-ce qu'on est dans un moment particulier ? Ben, tout d'abord, parce que on est dans un moment de recherche, finalement, de ce qui est le fond de l'identité nationale ou de ce qui est le fond de l'identité européenne, parce que c'est pas un phénomène franco-français. On le retrouve dans bien d'autres pays. Les flux migratoires, la visibilité croissante d'un islam sur le sol européen questionne beaucoup de Français, beaucoup d'Européens, qui du coup vont se réapproprier, je dirais, les racines chrétiennes pour dire ce qu'ils sont. Pour dire ce qu'ils sont, non pas tant, je dirais, dans leur conviction, que par opposition à ce qu'ils ne veulent pas être et ce qu'ils ne veulent pas devenir. Donc il y a ça, tout d'abord, ce rapport à l'islam. Il y a ensuite, je dirais, la fin de l'idée de progrès. Vous savez, nous sommes en train de vivre un effondrement historique de la croyance dans le progrès, alors qu'elle a sous-tendu, je dirais, la plupart de nos imaginaires politiques depuis quasiment deux siècles. Et on ne mesure pas encore toutes les conséquences, hein, de cette érosion de l'idée de progrès. Mais pour aujourd'hui, pour beaucoup de Français, il est certain que demain ne sera pas meilleur qu'aujourd'hui, et quelle vie auront les enfants ou les petits-enfants, il y a un certain nombre de doutes là-dessus. Et donc ça, je dirais que cet effondrement de l'idée de progrès, elle aboutit du coup aussi à une requalification, à une relégitimation de la pensée conservatrice. Et il est très intéressant de voir, depuis 5-6 ans, le phénomène éditorial qu'il y a autour d'auteurs qui se présentent et qui se disent comme conservateurs, alors qu'on sait bien que dans l'histoire politique de la France, ce terme n'a jamais eu un grand succès. Donc voilà encore un élément de contexte. Et puis je dirais aussi que au sein même de l'État, il y a un certain regain d'intérêt, parfois ambigu, mais sur la ressource civique que peut être le catholicisme. Parce que, certes, le catholicisme, statistiquement, du moins, ne va pas très bien, mais enfin, la République ne se porte guère mieux. Et par conséquent, il est intéressant de voir que certains présidents de la République se tournent parfois vers le catholicisme, non pas pour des raisons religieuses, mais parce qu'ils y voient une forme de ressource civique potentielle. Le discours de Nicolas Sarkozy à la basilique Saint-Jean de Latran en décembre 2007 oui. était quand même, dans l'histoire de la République, tout à fait surprenant et exceptionnel. Un président de la République, dans une basilique romaine, affirme que l'instituteur ne remplacera jamais le prêtre, ça sonnait, dit à Rome, ça sonnait comme une sorte de reddition. Alors, bien sûr, je sais bien que ces discours, il faut... Voilà, ça n'est pas une politique. Enfin, quand même, ça n'est pas rien non plus. Il y a eu aussi quelque chose de cet ordre-là qui s'est joué autour de la mort du colonel Arnaud Beltrame, qui a et Emmanuel Macron, dans l'hommage qui lui a été rendu aux Invalides, a dit ceci, la force d'âme est un rempart de la République. Et il a repris ensuite cette expression quand quelques semaines plus tard, il est allé parler au Bernardin, à la conférence des évêques de France. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire que Nicolas Sarkozy ou Emmanuel Macron sont en train de rallier le catholicisme ou de restaurer la royauté sociale du Christ. Mais c'est intéressant de voir que tout à coup, le catholicisme peut être pensé comme une ressource civique. Donc voilà, là, mais j'ai trop parlé, un contexte qui me semble favorable.
Non, on va poursuivre, mais on a un bobino à entendre important pour la radio, c'est la fête de la courtoisie. Simplement, je cite cette intervention d'un auditeur. « Bravo pour votre intéressante émission, je suis évangéliste protestant. Pourquoi ce défaitisme vis-à-vis de Vincent Lambert? Qui vous dit qu'il sera débranché? Nous prions avec force contre ce débranchement. » Voilà. Donc, on écoute le bobino.
Dimanche 16 juin à Paris, fête de la courtoisie. À l'espace Champéret, dimanche 16 juin de 11h à 19h, venez à la rencontre de toute l'équipe de Radio Courtoisie, de ses patrons d'émission et de ses collaborateurs qui vous invitent à partager ce moment d'intelligence et d'amitié. Vous retrouverez les écrivains qui se sont exprimés à Radio Courtoisie. Ils seront heureux de vous dédicacer leurs œuvres. À 11h30, conférence du professeur Paul Dehevels de l'Institut Mensonge, Mensonge. À 13h30, remise du prix Grand-Duc de la réinformation. À 14h, intervention de Marion Maréchal, les jeunes, la formation, la lecture. À 17h30, conférence de Jean-Paul Gourevitch, immigration et islamisation. Retenez, dimanche 16 juin, fête de la courtoisie, espace Champéret, 1 place de la Porte de Champéret, Paris 17e, accès par la rue Jean Estrecher, métro Porte de Champéret. Entrée 5 euros, gratuit sur présentation de la carte d'auditeur ou du reçu de cotisation, et pour les personnes de moins de 26 ans.
Donc, très important la fête de la courtoisie. Yann Raison de Duclosio, on ne sait pas encore si vous pourrez y venir, mais nous espérons que vous pourrez y venir pour signer votre livre.
Écoutez, merci de votre invitation, je vais faire mon possible.
Il y aura à mon comptoir, il y aura plusieurs auteurs, notamment Aude Dugas qui vient de faire un livre sur le professeur Jérôme Lejeune, et puis des auteurs scouts également. Donc on va peut-être se réidentifier.
Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Lumière de l'Espérance, animé par Rémi Fontaine, qui reçoit Yann Raison du Clusiou, Denis Sureau, Xavier Encart, sur le thème « Quelle contre-révolution catholique aujourd'hui ?»
Alors plusieurs interventions d'auditeurs, donc pourriez-vous parler de Vincent Lambert? On en a déjà parlé. Hein. Rappelons le rassemblement qui a lieu cet après-midi devant le CHU de Reims, auprès de Madame de la mère de Vincent Lambert. Autre réaction concernant la réaction de l'incendie de Notre-Dame, je trouve que vous dites cela d'une façon superficielle et peu chrétienne. La grâce frappe là où elle veut et quand elle veut. Cette réaction de ferveur exprime l'indicible commun à notre inconscient collectif. Si l'un de vous veut réagir.
Oui, moi j'ai pu constater dans mon univers professionnel que même des personnes qui ne sont pas du tout catholiques se sont senties agressées et touchées personnellement par cet incendie de Notre-Dame de Paris qui somme toute, on touche à l'âme de la France et donc chacun s'est reconnu dans cet événement dramatique.
Alors, on en revient à un autre sujet, c'est qu'effectivement, dans ce retour apparent du catholicisme, il y a du pur et du moins pur, effectivement. Il y a une utilisation du politique, effectivement, sur les racines chrétiennes de la France, notamment. Ça n'empêche pas une espèce de... Enfin, il y a un paradoxe, effectivement, à la fois une sécularisation, mais un retour au sacré. Et ça n'empêche pas une certaine coopération des uns et des autres, non?
Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors, il y a des choses très ambiguës, parce que ce que je montre bien, c'est que quand on étudie ces discours qui mobilisent les racines chrétiennes, alors de la France ou de l'Europe, ce qui est vraiment devenu une expression omniprésente. On la trouve en France à droite, on la trouve en Italie dans la bouche de Matteo Salvini qui brandit crucifix et chapelet lors de certains meetings. Je suis pas certain qui sache exactement à quoi sert un chapelet, mais qu'importe. On les retrouve en Pologne, en Hongrie, etc. Et alors, cette mobilisation des racines chrétiennes, il faut pas s'illusionner. Ça n'est pas un retour du religieux. Je crois même au contraire que c'est une forme de, je dirais, de poursuite d'un processus de sécularisation. Parce que ces objets religieux, le crucifix en Bavière, le chapelet de Matteo Salvini, ou même les crèches qui sont mises dans les mairies, ce n'est pas à des fins de dévotion. C'est comme pur symbole identitaire. Et donc je crois qu'il y a là une forme, une subordination d'objets pourtant très chargés symboliquement pour les fidèles catholiques, une subordination à une pure logique politique, à une pure logique identitaire. Les hommes politiques populistes, quand ils mobilisent les racines chrétiennes, en fait, ils les mobilisent en tant que frontières culturelles, ce qui leur permet d'une manière polie d'affirmer que tous les Français ou tous les Européens qui leur permet d'affirmer d'une manière polie, en gros, que les musulmans ne seront jamais d'authentiques Français ou d'authentiques Européens. Donc le catholicisme est utilisé comme une frontière. Donc pour moi, c'est strictement, c'est un usage, si vous voulez, séculier. C'est une forme de sécularisation. Vous avez quand même des militants catholiques qui sont divisés à l'égard de cette instrumentalisation.
Oui, ça fait penser au fameux débat sur la tentation identitaire, là, avec le livre de...
Oui, tout à fait.
L'homme Herdeck.
En gros, ils sont divisés parce que certains se disent c'est une déformation de la foi. Le christianisme, c'est avant tout une foi, donc en faire un symbole d'exclusion, c'est quasiment une forme de blasphème qu'il faut dénoncer. Et puis il y en a d'autres qui disent oui, mais attention, parce que certes, c'est peut-être un réveil identitaire, mais qui peut précéder un réveil spirituel. Et par ailleurs, après des années de dénégation, je dirais, d'exclusion symbolique par une laïcité ou parfois agressive, eh bien, c'est une consolation à accepter. Et surtout, ça permet de rappeler aux gens leur mémoire. Et c'est donc c'est un instrument qu'il ne faut pas négliger. Alors, donc, on a les deux thèses.
En appui de ce que vous venez de dire, je voudrais citer justement le dernier éditorial de Christophe Geffroy dans la Nef. Suite justement à l'incendie de Notre-Dame, la grâce de Notre-Dame, c'est intitulé son éditorial, et il dit « Ça montre aussi combien était mal posé le récent débat sur la tentation identitaire qui toucherait des chrétiens inquiets de voir le monde leur échapper, s'écrouler de toutes parts, que des chrétiens s'égarent en défendant que la dimension identitaire du christianisme, annexant ce faisant la religion pour un combat politique partisan, est bien malheureux. En effet, c'est bien évidemment la foi qui fait vivre le christianisme, mais ce dernier n'en a pas moins une dimension sociale et culturelle qui est la seule accessible aux non-chrétiens et qui participe bien à l'identité du pays. Et qui sait si cette dimension ne peut mener à un chemin intérieur de conversion. »
Oui, tout à fait. Vous savez, tout ça me fait penser aux grandes controverses qu'il y avait sur la religion populaire dans les années 70. J'ai réédité il y a quelques années les ouvrages à la fois d'analyse et de combat du dominicain Serge Bonnet qui défend le catholicisme populaire, qui était disqualifié par une partie du jeune clergé dans les années 70, qui le considérait comme une rémanence païenne dont il fallait affranchir l'Église. Affranchir les fidèles pour mieux les convertir au christianisme. Bon, mais Serge Bonnet a montré que, en cherchant à élever, le niveau de foi requis pour accéder à un certain nombre de rites, vous savez, c'était le refus du baptême des jeunes enfants à l'époque, la suppression de la communion solennelle, on n'a pas fait une église de militants, mais on a perdu une église populaire. Et il y a toujours des choses très ambiguës dans la foi des gens simples. Ils ne peuvent pas forcément mobiliser des tas de conceptions savantes ou une érudition savante pour expliquer leur credo, ils ne savent pas exactement... Mais il y a une fidélité qui se joue sans forcément pouvoir être explicité. Et puis surtout, il y a des tas de pierres d'attente. Et Serge Bonnet aimait rappeler que n'importe quel groupe se renouvelle, non pas à partir de ses membres les plus zélés, mais à partir de ses marges. Et que par conséquent, il faut toujours conserver des marges ouvertes parce que c'est une voie d'intégration. C'est une voie d'intégration et ce sont un peu ces marges qui ont été, je dirais, refoulées avec le rejet de la religion populaire. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose aussi comme ça qui se joue, c'est-à-dire que oui, effectivement, dans le rapport à Notre-Dame, on ne va pas dire qu'il y a quelque chose de totalement spirituel, quelque chose qui est ambigu, qui est mémoriel, mais qui, sans être spirituel, peut être la pierre d'attente, éventuellement, d'une réévangélisation. Mais ça, je dirais, ce n'est pas aux sociologues de se prononcer là-dessus.
Alors, à ce stade du débat, je voudrais demander à Xavier ou à Denis s'ils veulent réagir ou s'ils ont quelque chose à rajouter.
Non, moi, j'aimerais qu'on creuse la relation à la laïcité. Vous avez parlé de l'islam qui confond les pouvoirs spirituels et temporels. À l'inverse, vous avez évoqué que certains gouvernants parlaient des racines chrétiennes, voire les instrumentalisaient à leur profit. Je me souviens de le fait que Emmanuel Macron ne se soit pas signé lors de la messe de Johnny Hallyday. Je sens il y a vraiment une ambiguïté par rapport à cette laïcité. Est-ce que vous pourriez creuser un peu le sujet de ce laïcisme qui veut clairement séparer la religion du temporel, alors qu'elle en fait clairement partie à travers la doctrine sociale de l'Église ou par rapport à tout notre ordonnancement qu'on devrait avoir chaque jour?
Alors, écoutez, vous avez raison, la question de la laïcité, on n'en a pas parlé, elle est importante. Alors, tout d'abord, sur le geste d'Emmanuel Macron, enfin, ou l'absence de geste d'Emmanuel Macron lors de la messe d'obsèques de Johnny Hallyday, il faudrait creuser, il y a quelque chose de très intéressant. Vous savez que le général de Gaulle ne communiait pas lors des célébrations auxquelles il assistait en tant que président de la République, parce qu'il considérait qu'il y était comme représentant de la France, et il ne communiait que lors de messes privées. D'ailleurs, il avait un cousin, je crois, qui l'embauchait pour dire la messe. Il avait fait aménager une pièce de l'Élysée pour y célébrer la messe discrètement, individuellement. Donc là, il y a des questions de figure du roi, de corps symbolique, bon, qu'il faudrait creuser, mais c'est un peu un autre sujet. Mais il y a, je dirais, dans le dynamisme des catholiques, c'est directement aussi, ou dans leur changement de rapport à la société, c'est une conséquence aussi de la montée en puissance d'une nouvelle conception de la laïcité plus agressive. Je raconte dans mon livre toute l'importance du contexte des années 2000. Parce que à ce moment-là, il y a donc depuis la fin des années 90, la question de ce qu'on appelait à l'époque le foulard, hein, des lycéennes musulmanes monte en puissance. Ce foulard porté par les lycéennes n'est absolument pas une transgression, hein, de la laïcité telle qu'elle était définie par la loi de décembre 1905, qui impose la neutralité à l'État, mais non pas à la société française, puisque c'est à l'État d'être laïque. Et dans la loi de 1905, la laïcité de l'État est pensée comme la condition de la liberté de conscience et de culte de la société. Donc, bien sûr que la société, elle n'a pas à être laïque, elle est plurielle, elle est libre. Bien. Et donc, le Conseil d'État consulté, hein, c'était Lionel Jospin était alors ministre de l'Éducation nationale, répond que bah, il n'y a pas de problème avec ce foulard, bon, qu'il faut éventuellement renvoyer au proviseur la responsabilité si nécessaire. Et puis, cette solution ne satisfait pas une partie de l'opinion, et cela va aboutir à la loi de mars 2004 sur les signes religieux ostensibles, qui interdit donc tout signe religieux sensible dans l'espace scolaire. Cette loi de mars 2004, elle montre une évolution de la conception de la laïcité. Puisque auparavant, donc, la neutralité ne s'imposait qu'aux agents de l'État, Et en mars 2004, on a une spatialisation de la neutralité, puisque désormais elle s'impose à tous ceux qui sont dans l'espace scolaire, qu'ils soient cuisiniers ou, enfin voilà, à tous. Et cette loi de 2004, dont la motivation, c'était la limitation de la visibilité de l'islam, elle a abouti à une régression des libertés pour les catholiques y compris, alors qu'il n'était pas la cause de ce redéploiement d'une conception plus importante de la laïcité. Et dès l'automne 2004, il y a eu une controverse à Toulon parce qu'il y avait des aumôniers d'établissements publics qui appartenaient à la communauté Saint-Martin qui se sont vus refuser l'entrée. Hein,
parce qu'en soutane.
Voilà, parce qu'ils étaient en soutane. Donc pour les catholiques, c'est un moment très dur. Parce qu'à la fois, je dirais que le dynamisme apparent de l'islam les renvoient au sentiment de leur propre déclin, et en même temps, à cause de l'islam, ils perdent des libertés religieuses alors qu'ils n'en sont pas la cause. Et donc, ça a créé un sentiment d'enfermement et d'étouffement entre ces deux fronts, une laïcité de plus en plus agressive et une montée en puissance de l'islam. Et ça, c'est aussi un des ressorts, je dirais, de multiples controverses que je raconte pour de penseurs catholiques, que ce soit dans L'Homme Nouveau, il y en a quelques-uns par ici, de L'Homme Nouveau, dans La Nef, dans Présent, dans Famille Chrétienne, qui ont cherché le moyen de s'adapter à cette situation et qui ont essayé de réfléchir, je dirais, à la meilleure stratégie pour redéployer le catholicisme. Parce que ce qui se joue d'ailleurs dans cette loi de mars 2004, je dirais, c'est la fin d'un processus qui a commencé avec les lois bioéthiques en 1995, je dirais 95-2004, ce sont 10 ans dans lesquels prend fin ce que j'aurais envie d'appeler le concordat implicite qui existait entre la République et l'Église catholique depuis la loi Debré de 1959, qui a quand même été un moment de pacification très important. Vous savez que Debré, en 59, avait y compris pensé, imaginé un revenir à la forme concordataire. Et donc, il y a une pacification des relations entre l'Église et la République, loi Debré de 59, donc je rappelle aux auditeurs qui permet la... Le contrat d'association entre les établissements catholiques et l'État. Il y a eu ensuite des mesures fiscales favorables au catholicisme, hein, c'est-à-dire la possibilité de défiscaliser des dons à des associations cultuelles. Et puis, ça aboutit, il y a le Concile Vatican II, donc tout ça aboutit à l'idée que la République, sous sa forme laïque, peut être le bon moyen de ce que est peut-être l'incarnation de ce que Jacques Maritain appelait la chrétienté profane. Hein, donc, cette idée que la République va défendre sous une forme laïcisée des normes ou une morale commune, tout à fait catholique, enfin, conforme, je dirais, avec la morale catholique. Et ça, ça prend fin. Ça prend fin... bon, alors, il y avait eu la loi Veil, d'abord, bien sûr, mais je dirais qu'il y a un tournant entre la première loi bioéthique de 95, le pacte 199, la loi de 2004, où les catholiques comprennent qu'ils ne peuvent plus tirer de privilèges de la place qu'ils ont occupée dans l'histoire de France. Ils ne sont plus non plus une majorité statistique, ils ne peuvent plus s'appuyer sur ce concordat implicite avec la République, ils ne représentent plus une masse, et donc il faut se redéployer comme une minorité.
Denis Sureau.
Alors oui, je voudrais revenir justement sur ce paradoxe, en quelque sorte, entre un certain renouveau d'un certain catholicisme et l'échec politique des tentatives que vous analysez, en fait. Puisque nous avons d'abord la Manif pour tous, qui est un mouvement effectivement social massif, enfin colossal, hein, peut-être le plus important mouvement social de la Ve République.
Un mouvement important, je ne dirais pas le plus important, il y en a eu d'autres d'importants.
Important, mais enfin bon, qui se traduit par un échec, un échec politique total, puisque la loi passe. Alors peut-être qu'il y a, une certaine prudence après pour ne pas aggraver la situation pendant quelques années, mais là on voit bien que sous Emmanuel Macron, projet de loi bioéthique va aggraver encore les choses. Donc, premier échec politique. Deuxième échec politique, François Fillon. Bon, pour des raisons peut-être qui sont extra politiques. Mais échec aussi de sens commun. Et quand même, qui est issu de la Manif pour tous, mais qui est une tentative, finalement, qui n'a pas abouti à grand-chose. Et on pourrait encore... continuer comme ça, de voir par exemple que le petit parti chrétien-démocrate de Jean-Frédéric Poisson, à un moment, avait passé un accord pour être sur la liste de Nicolas Dupont-Aignan et finalement s'est fait rejeter au dernier moment, ce qui est d'ailleurs est sans doute une erreur tactique pour Nicolas Dupont-Aignan. Enfin, voilà. Donc, oui, il y a un certain dynamisme des catholiques en politique et puis il y a une succession d'échecs. Une accumulation d'échecs. Il n'y a pas, je ne vois même pas la moindre réussite en termes politiques des catholiques depuis 30 ans.
Oui, alors, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir, je dirais, les dynamiques internes au catholicisme. Effectivement, vous venez de citer un certain nombre d'échecs, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est la transformation de la culture militante au sein de l'Église. Et le fait que, pour l'instant, ça n'a pas de résultat, mais y a des militants après la Manif pour tous. Déjà, de l'échec même de la Manif pour tous, ont été tirés un certain nombre de leçons, et ce qui a abouti à un certain nombre de redéploiements. Après la Manif pour tous, il y a un foisonnement d'initiatives, la création du courant pour une écologie humaine, la création de sens commun, vous en avez parlé, le think tank fondé demain, des revues comme la revue Limite, etc. Bon, la face du monde n'en est pas changée, et loin de moi l'idée que la France redeviendrait catholique ou que les catholiques sont en train de prendre le pouvoir. C'est pas ça ma thèse. Hein. Mais ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus rien tirer, je dirais, qu'il fallait arrêter d'attendre de la rente, un peu de situation qu'ils avaient tiré en tant que majorité, un bénéfice quelconque. Et ils ont compris que désormais, s'ils voulaient obtenir quoi que ce soit, il allait falloir se battre pour, il allait falloir, je dirais, acquérir un savoir-faire militant, un savoir-faire de lobbying. Ils se sont réengagés un peu dans toutes les structures et ils sont assez bien formés, donc ils deviennent une ressource militante. Vous savez, vous parlez de sens commun. Sens commun n'a jamais eu l'ambition de changer ni LR ni la droite en 3 ou 4 ans. J'ai enquêté hein, sur les militants de ce parti. La plupart se donnent des objectifs à l'échelle de 30 ou 40 ans. Donc ils considèrent que le combat, il est d'abord, faut être là, faut se faire connaître, faut acquérir de l'expérience, parce que il suffit pas d'accéder, de prendre les manettes du pouvoir du jour au lendemain. Faut avoir certaines compétences. Il faut aussi préparer les esprits. Il y a un travail culturel de fond. Et c'est un bilan partagé chez beaucoup de militants de l'échec de la Manif pour tous. C'est qu'il suffit pas de se battre pour la famille. Il faut l'encastrer, ce combat, dans un combat beaucoup plus global, beaucoup plus culturel. Et par conséquent, avant de descendre dans la rue, même si l'un n'empêche pas l'autre, ils considèrent que, il faut relégitimer un certain nombre de choses. C'est intéressant, par exemple, sur le combat pro-vie, de voir toute la modernisation de la cause, qu'a entrepris le groupe des survivants, nouvelle génération, vu que c'est un groupe qui est déjà né à la fin des années 90. Donc, préparer les esprits. Sens commun, certes, n'a pas pris le pouvoir, mais si vous prenez les élus, si vous observez ce que font les élus sens commun au Conseil régional d'Île-de-France, ils réussissent à ce que des subventions aillent vers des maisons où les femmes enceintes en difficulté sont accueillies, cela afin de leur proposer une alternative à l'avortement. Ce sont des petites choses, ce sont des postes qui en fait n'étaient plus occupés auparavant. Donc tout ça est petit, mais il y a là du savoir-faire qui est en train de s'acquérir. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est l'effet que ça a au sein du catholicisme, c'est que l'engagement est indispensable et qu'il faut y aller. Alors,
on n'est plus dans la logique de l'enfouissement, c'est une autre logique métapolitique, on pourrait dire.
Ce livre, ces 30 ans d'histoire, je passe mon temps à raconter des controverses et des conflits. Parce que les catholiques, ces catholiques observants sont d'accord sur le bilan de ce qu'ils appellent effectivement la spiritualité de l'enfouissement, mais ensuite, sur le que faire. Il n'y a pas forcément d'accord, il n'y a pas forcément unanimité. Hein. Je parle d'une controverse dans les années 2007 dans laquelle vous avez été engagé, une controverse autour de ce qu'on appelait l'opportunité d'un communautarisme catholique. Il y a une tension entre ceux qui pensent que il faut défendre les fondamentaux, donc recréer des communautés où le christianisme puisse se vivre, où il y a un bain chrétien qui puisse se vivre, pour que les enfants puissent, que la transmission puisse se faire, et d'autres qui considèrent qu'il faut garder un ancrage national. On ne peut pas devenir une minorité comme les autres en France, parce que la France est tellement liée à l'histoire du catholicisme. Donc voilà, il y a des tas de tensions, retrait, engagement, dans quelle mesure l'engagement politique est-il une compromission ou pas. Enfin voilà, ça part un peu dans tous les sens, mais ça part. Et c'est déjà ça qui me semble intéressant, même si effectivement ça n'a pas pour l'instant de... je ne suis pas du tout en train de vous dire que la France redevient catholique, mais le catholicisme redevient militant et il se redéploie. Et ça, je pense que c'est important et qu'il faut le souligner.
Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Lumière de l'Espérance, animé par Rémi Fontaine. Il reçoit aujourd'hui Yann Raison du Clesiou, Denis Sureau, Xavier Encart. Le thème de l'émission, quelle contre-révolution catholique aujourd'hui?
Alors encore deux, trois messages et puis on va essayer d'aborder la conclusion.
Bon, on a beaucoup de messages, on ne pourra peut-être pas les lire tous. Alors, un premier message, la situation du catholicisme aujourd'hui n'est-elle pas due à la dislocation de la famille ? Un autre message, messieurs, le catholicisme s'effondre. Quelle est la dynamique de l'Église pour rassembler les fidèles ? Aucun enseignement religieux dans les écoles dites catholiques, encore moins de messes régulières, aucune rencontre après la messe, aucune conférence sur les thèmes relatifs à la Bible, communion solennelle en jogging, etc. Et encore un troisième message, la Manif pour tous a quand même voté Macron au second tour des présidentielles de 2017. La Manif pour tous et pour Dieu et pour l'euro.
Bon, on peut malheureusement pas répondre, on n'a pas le temps, mais il nous reste à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Je voudrais qu'on aborde un sujet maintenant qui touche justement à ce que vous venez de dire et qui touche également le pèlerinage de Chartres. On a quand même, on est face à deux logiques, comme on vient de le dire, à des controverses. On connaît la fameuse controverse suscitée par Emmanuel Mounier, feu la chrétienté. Et puis aujourd'hui, vous parlez, c'est tout à fait nouveau, parce qu'on pensait que le concept était en désuétude, etc., d'une contre-révolution catholique, en utilisant la fameuse formule de Joseph de Maistre. Hein, la contre-révolution n'est pas la contre-révolution n'est pas une contre-révolution en sens inverse, une révolution en sens inverse.
Pas une révolution en sens contraire, mais
le contraire d'une révolution. De la révolution. Voilà, le contraire de la révolution. Donc, et vous insistez beaucoup justement sur cette transmission et sur l'action catholique des catholiques observants dans le sens d'une perpétuation de l'ordre. Hein.
Oui, alors effectivement, je vais expliquer pourquoi j'utilise ce terme, ou je réveille ce terme de contre-révolution qui a une longue histoire. Alors, ce n'est pas pour dire qu'aujourd'hui, dans l'Église catholique, Louis de Bonald, Donoso Cortés ou Joseph de Maistre seraient en train de gagner. Hein, il faut pas essentier la contre-révolution à ce qu'a été sa... Non, il ne faut pas, je commence à parler la langue de Ségolène Royal. Non, il ne faut pas essentialiser la contre-révolution, pardon, en l'identifiant exclusivement à son premier moment historique, c'est-à-dire l'opposition à la Révolution française. Chaque révolution suscite une contre-révolution. Bon, alors moi, ce qui m'a intéressé dans ce terme, c'est qu'il me permettait de montrer l'importance de la durée. Vous savez, depuis les années 70, on ne compte plus les ouvrages qui annoncent la fin du catholicisme. Alors, vous savez, ça va de celui de Jean de Lumeau, « Le christianisme va-t-il mourir ?», qui doit être de 79, quelque chose comme ça, ou plus récemment, en 2003 ou 2004, celui de ma collègue Daniel Hervieux-Léger, « Catholicisme, la fin d'un monde ». Bon, ok, les statistiques sont en déclin, mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est de retourner l'interrogation, ne pas regarder ceux qui partent, mais ceux qui restent. Voilà, ma thèse... Enfin, et d'ailleurs, ce n'est pas une thèse a priori, c'est ce que j'observe à la suite de cette enquête, c'est que le catholicisme se recompose aujourd'hui sur ceux qui restent, sur ceux qui arrivent à conserver et à transmettre la foi. Et c'est la définition même de la contre-révolution. La contre-révolution, ça n'est pas la révolution en sens contraire, c'est-à-dire ça n'est pas un retour au passé. C'est le contraire d'une révolution. Et qu'est-ce que le contraire d'une révolution ? Ben, c'est la perpétuation d'un ordre. Et c'est catholique. Observant, bah, ils prennent un poids croissant dans l'Église, non pas parce qu'ils sont en expansion, mais parce qu'ils arrivent à se perpétuer, parce qu'ils arrivent à transmettre la foi à leurs enfants. Il y a une question importante que je pose dans ce livre. Vous savez, moi, vous n'en avez pas parlé, mais mon livre précédent, qui est sorti il y a 2 ans, c'est un livre sur la crise de l'ordre dominicain dans les années 60-70. Donc mon précédent travail, c'était la crise de la vie religieuse dans les années 60-70 et la montée en puissance du catholicisme progressiste. Dans les années 70, le catholicisme progressiste a la plupart des ressources militantes. Les militants les plus formés, enfin très formés, s'y rattachent. Le jeune clergé hein, et vote, vous savez, 3 fois plus à gauche que le reste des fidèles. Bon, et bien cette minorité qui semblait être la minorité de l'avenir, elle a disparu, elle s'est marginalisée parce qu'il n'y a pas eu de transmission de la foi au sein des familles. Et le catholicisme qui, à l'époque, était associé comme une rémanence du passé, ce catholicisme des observants, qui, sans contester le Concile Vatican II pour la plupart, juste cherchait dans leur famille à maintenir, la structuration de la foi qui était anticonciliaire et qui leur semblait lourdement impactée par la pastorale post-conciliaire, et ben ces catholiques, ils ont su durer. Et je dirais qu'aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire qu'ils triomphent, mais aujourd'hui, bah, ils sont en train d'entreprendre une restauration dans l'Église parce qu'eux, ils restent quand les autres s'effacent. Et c'est pour moi ça la contre-révolution, c'est cette capacité à perpétuer l'ordre. Je dirais qu'aujourd'hui, les catholiques qui ont refusé le changement à tout prix ou qui ont refusé de se laisser imposer le changement par d'autres, eh bien, ils sont en train d'introduire le changement dans l'Église par le seul fait qu'ils demeurent. Voilà, c'est le sens de la contre-révolution dans mon livre.
Denis
oui,
Soro.
Et pour aller dans le même sens, je dirais que ça se traduit aussi en termes de nomination épiscopale. Le profil des évêques nouvellement nommés est effectivement, c'est un profil d'observant. Dire, pensons par exemple à l'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, qui est vraiment très très ferme sur les questions de défense de la vie, de la présence de l'Église dans la société. C'est pas du tout le profil du cardinal Marty. Bon, voilà, on est vraiment dans
oui, là, dans deux logiques. Vous prenez des exemples qui sont bien balancés.
Non, mais oui. Les jeunes prêtres, bon, il n'y en a pas beaucoup, mais aussi, ce sont effectivement, oui. On retrouve exactement le même phénomène. Je veux dire, ce sont les familles d'observants, de toute façon, qui produisent des vocations, qui produisent des prêtres observants et des évêques observants. Bon, on voit ça un peu partout, dans toutes les institutions, même s'il y a encore dans les structures diocésaines, comme vous le faisiez remarquer, une catégorie prédominante.
Ces catholiques restent minoritaires. Ils restent minoritaires, mais effectivement, ils sont en train de revenir au centre de l'institution par le clergé. Ou par des nominations épiscopales.
Vous avez d'ailleurs des évaluations quantitatives de vos quatre catégories.
Oui, tout à fait. Mais par exemple, ces évaluations quantitatives, je les avais produites dans l'enquête que m'avait commandé le groupe Bayard en juin 2016. Alors attendez, que je retrouve mes chiffres. Mais pour ce qui est des catholiques observants, on est à 17% dans la pratique mensuelle et on est à 30% dans les catholiques, dans la pratique hebdomadaire. Donc en gros, vous voyez, ce n'est pas un groupe majoritaire, c'est un groupe minoritaire, mais dans la mesure où c'est le premier groupe parmi les plus fidèles et que c'est parmi dans les pratiquants les plus fidèles à la pratique de la messe que se renouvellent les rangs des pratiquants, ça va. Ben voilà, ils ont un poids croissant.
J'aurais juste ajouté un élément, c'est dans ces mêmes mouvances, par exemple traditionnelles, qu'aujourd'hui vous avez des familles nombreuses, des vocations nombreuses, des communautés qui ont une vitalité, qui construisent. Donc on est vraiment sur, dans ce monde traditionnel, sur une vitalité qui ne fait que croître.
Alors, il y a aussi, effectivement, le problème doctrinal, c'est le problème du lien entre le temporel et le spirituel, qui est un vaste sujet aussi, la nature et la grâce. Enfin, dans l'histoire de l'Église, il y a eu beaucoup de controverses là-dessus, mais il est vrai que ces observants se sont faits les gardiens de la loi naturelle et les défenseurs de la piété filiale, qui a un peu disparu, malheureusement, chez d'autres catégories de catholiques.
Oui, mais alors, je voudrais dire aussi, en réaction à ce que vient de dire Xavier Henkar, c'est qu'il faut aussi voir l'envers de ce dynamisme, c'est qu'aujourd'hui, on a un énorme rétrécissement de la base sociale des catholiques pratiquants sur un certain milieu qui, finalement, a des codes culturels assez homogènes. On a un énorme rétrécissement de la base sociale du clergé. Et ça a aussi des effets missionnaires qu'il faut prendre en compte. Vous savez, auparavant, le clergé séculier se recrutait massivement dans les catégories populaires rurales, dans les familles nombreuses rurales. Aujourd'hui, on a un catholicisme qui vient plutôt d'élites sociales. Et donc, il est important d'en prendre connaissance pour mesurer le biais éventuel missionnaire que cela peut susciter. Donc il y a une dynamique, mais elle a aussi ses propres limites.
On arrive au terme de cette émission, donc je vais demander à chacun de conclure. Denis Soro.
Bah écoutez, moi je vais très simplement recommander aux auditeurs la lecture du livre de Yann Raison du Clesiou, parce que c'est un livre qui est vraiment très sérieusement documenté. C'est très rare dans les écrits, les analyses des sociologues contemporains, surtout ceux qui s'intéressent à la sociologie religieuse. Et là, c'est vrai que Yann Raison du Clozio a fait un formidable travail et sur les controverses qui ne concernent que certains milieux dont j'ai pu faire partie. Je vois que l'information est précise, exacte, référencée. Et bravo, c'est vraiment un très beau travail. Oui.
J'adhère à cette analyse, effectivement. Xavier Ncar.
Moi, je voudrais simplement inviter les auditeurs à mettre en pratique le titre « Une contre-révolution catholique », de suivre Jésus-Christ en venant pèleriner sur les routes de Chartres, puisque le thème de cette année, c'est la paix du Christ par le règne du Christ.
Et donc, je vais laisser le mot de la fin donc, à Yann Raison du Clozio, en rappelant son titre, son dernier titre, donc « Une contre-révolution catholique aux origines de la manif pour tous », seuil, donc... Pour les auditeurs, voilà le mot de la fin.
Eh ben, merci. Écoutez, moi j'ai voulu réfléchir sur la force de ce CEX qui dure, la force de la durée. Voilà, je crois que c'est une dynamique importante à réfléchir.
Eh bien écoutez, merci beaucoup et puis à la prochaine fois et pour son règne, Dieu nous garde.
Vous venez d'entendre le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé par Rémi Fontaine, assisté de Florence, diffusé en direct sur Radio Courtoisie dimanche 19 mai 2019 de midi à 13h30 et réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.